Comment transformer du lait de ferme, un réveil à 5 heures du matin et un simple smartphone en une marge bénéficiaire qui frôle les 65%?
Ah oui, c'est une sacrée promesse.
Ouais, totalement. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'une énième start-up dans la tech ou d'intelligence artificielle, on parle en fait d'un simple cornet de glace.
Et c'est vraiment là tout le paradoxe de cette histoire. Sous l'apparence d'une petite gourmandise assez banale, genre le petit plaisir d'été classique, il se cache en réalité une mécanique financière redoutable.
C'est ça. Ce qu'on va examiner aujourd'hui, c'est carrément une leçon d'économie moderne, mais appliquée à un produit vieux comme le monde.
Alors, pour ça, on se plonge dans une étude qui est extrêmement bien documentée. Elle a été publiée en 2026 sur le portail monprojet.ma. Le document s'intitule « Glace artisanale au Maroc, projet rentable des 30 000 MAD ». 30 000 dirhams, ce qui n'est pas énorme pour démarrer.
Exactement. Et la mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de prendre cette espèce de feuille de route entrepreneuriale et de comprendre la mécanique. Comment un investissement de départ aussi modeste peut générer des marges qui feraient pâlir d'envie pas mal de secteurs industriels traditionnels.
C'est clair.
L'objectif, c'est d'extraire les stratégies clés pour tous ceux qui sont curieux de comprendre l'économie de ce qu'on appelle le snacking premium au Maroc. Et ça, sans se noyer dans le jargon des écoles de commerce, bien sûr.
Heureusement.
Ok, décortiquons tout ça. Par où on commence?
La première étape pour comprendre ce document, c'est de complètement oublier l'image d'Épinal du glacier romantique, tu vois, le petit artisan avec son tablier blanc.
Ouais, le côté carte postale.
Voilà. Ce texte, c'est un vrai manuel de survie économique. En fait, dans l'entrepreneuriat, il y a souvent un fossé gigantesque entre le mythe de la passion culinaire et la réalité mathématique du bilan comptable à la fin du mois.
C'est ça, la passion, ça paye pas toujours les factures.
Exactement. Et l'étude nous montre précisément comment combler ce fossé, en utilisant des leviers psychologiques, logistiques et marketing qui sont ultra précis.
Et le point de départ de toute cette ingénierie, selon la source, c'est une rupture totale avec le passé. L'idée centrale, c'est de tourner radicalement le dos aux géants de l'industrie agroalimentaire.
Fini les gros bacs en plastique.
C'est ça. On oublie les bacs standardisés des grandes marques genre Nestlé ou Unilever qu'on trouve dans tous les congélateurs de supermarchés. La stratégie, ici, elle repose sur un retour presque agressif à l'authentique et au terroir.
Et ça marche.
De fou! La liste des ingrédients mentionnés dans le texte, franchement, elle donne l'eau à la bouche. On y parle d'amandes de Tafraout, d'eau de fleurs d'oranger de la région de Meknès, de lait frais de ferme.
C'est que du local premium, quoi.
Ouais, ou encore de véritables safrans de Taliwin. Et ça va même plus loin, avec des associations super audacieuses. Ils parlent de glace au thé à la menthe à la shebbakia, ou même un mélange avocat-citron vert.
Ah, avocat citron vert, il faut oser, mais c'est très tendance.
Grave. Et si je devais formuler une théorie là-dessus, je dirais que vendre cette glace, c'est un peu comme vendre une place de cinéma.
Comment ça?
Le client, il n'achète pas juste un amas de calories congelées pour se rafraîchir. Il paye pour une expérience sensorielle, une petite histoire locale qu'il peut consommer. En gros, on vend de l'évasion.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette stratégie de l'expérience, elle arrive à un moment historique extrêmement précis. L'étude met vraiment en lumière la convergence de trois facteurs structurels majeurs au Maroc en 2026.
Lesquels?
C'est ce qui transforme ce produit en une opportunité explosive. Premièrement, tu as la démographie. Faut savoir que plus de 60% de la population marocaine a moins de 35 ans.
Ah oui, c'est énorme.
C'est une génération qui utilise l'alimentation non plus seulement pour se nourrir, mais comme un vrai marqueur d'identité. Consommer un produit local, sain, artisanal, c'est une façon d'affirmer qui on est sur les réseaux sociaux.
C'est le côté statut social de la nourriture.
Tout à fait. Deuxièmement, il y a la donne climatique. Dans des villes comme Marrakech, Fès ou Agadir, les températures dépassent les 35 degrés pendant plus de la moitié de l'année.
C'est vrai que l'été dure longtemps.
Du coup, la saison de la glace ne s'arrête pas net à la fin du mois d'août. Elle se prolonge facile jusqu'en novembre, ce qui modifie complètement la gestion de la trésorerie pour l'entrepreneur.
C'est un sacré avantage. Et le troisième facteur, c'est évidemment le tourisme.
Voilà.
Surtout avec cette projection vers la Coupe du Monde 2030. Le document souligne d'ailleurs les 14 millions de visiteurs de 2024.
Une manne financière incroyable.
Ouais, et ces touristes, ils ne viennent pas au Maroc pour manger la même glace industrielle qu'ils trouvent à Paris ou à Madrid.
Surtout pas.
Ils cherchent l'immersion. Pour eux, une glace à la corne de gazelle, c'est le prolongement naturel de leur voyage, quoi.
C'est la suite logique de l'expérience touristique.
D'accord, donc on a un produit expérientiel qui est génial, ancré dans le terroir et un environnement macroéconomique parfait. Mais soyons pragmatiques une seconde.
Je t'écoute.
C'est bien beau d'avoir une glace au safran dans sa vitrine, mais sur le terrain, très concrètement, qui va ouvrir son portefeuille et face à qui on se bat réellement?
C'est là que l'étude est forte. Le champ de bataille, il est segmenté de manière très chirurgicale. La source identifie trois profils d'acheteurs principaux.
Ok.
Le premier, c'est cette fameuse jeunesse urbaine des 18-35 ans dont on parlait. Pour eux, le produit doit absolument être Instagrammable.
Le visuel avant tout.
Exactement. L'esthétique de la glace justifie à elle seule de payer un prix qui tourne entre 20 et 35 dirhams la boule.
Ah ouais, quand même.
Ensuite, le deuxième profil, ça concerne les familles. Là, le levier psychologique, c'est pas l'esthétique pour les réseaux, c'est la santé. Les parents d'aujourd'hui, ils cherchent désespérément à fuir les colorants artificiels et les conservateurs pour leurs enfants.
Ils sont prêts à payer plus cher pour du naturel.
C'est ça. Et enfin, le troisième profil, ça regroupe les touristes. Particulièrement dans des villes qui ont un fort cachet historique, genre Essaouira ou Chefchaouen. Là-bas, ils sont disposés à débourser jusqu'à 30, voire 50 dirhams pour une promesse d'authenticité pure.
En lisant cette partie sur la clientèle, il y a un truc qui m'a vraiment frappé. C'est l'identification d'une espèce de faille béante sur le marché.
La zone vide, oui.
Ouais, l'étude prend l'exemple d'une ville de 600 000 habitants comme Meknès. Sur une population aussi massive, on ne compte en fait que deux ou trois véritables glaciers artisanaux.
C'est fou quand on y pense.
C'est rien du tout. Et le texte souligne qu'il existe un segment intermédiaire situé à peu près entre 15 et 25 dirhams la boule qui est pratiquement désert.
La place est libre.
C'est ça, les consommateurs sont coincés. D'un côté, t'as la distribution de masse industrielle et bon marché, et de l'autre, bah, le luxe historique, les grandes institutions très chères comme Olivieri à Casablanca. Du coup, il y a un vide immense au milieu.
C'est exactement ce qu'on appelle en stratégie d'entreprise le principe de l'océan bleu.
C'est-à-dire ?
Au lieu d'aller se battre avec les requins dans un marché qui est déjà saturé, plein de concurrence et sanglant, l'océan rouge quoi, l'entrepreneur va créer un espace entièrement nouveau, sans véritable rival. Il propose un positionnement de qualité premium, mais à un prix qui reste accessible à cette classe moyenne émergente.
Je veux bien croire à ce concept d'océan bleu, mais là, je dois faire l'avocat du diable une seconde.
Vas-y.
L'article annonce noir sur blanc une marge bénéficiaire brute de 65%.
Oui.
Avec des ingrédients ultra premium comme des amandes de Tafraout, du vrai safran de Taïouine, du lait frais de ferme, comment c'est mathématiquement possible d'atteindre 65% de marge sans arnaquer le client?
C'est la question que tout le monde se pose.
Bah oui, sans réduire les portions à des tailles ridicules ou sans couper le lait avec de l'eau en douce, je vois pas, il y a un angle mort financier là-dedans, non?
Alors, ta question est tout à fait légitime. Et c'est là que l'étude est vraiment pointue. Le secret de cette marge, il ne réside absolument pas dans la dégradation du produit final.
D'accord, ça me rassure.
Il réside dans ce qu'on pourrait appeler la prime à la sueur. La stratégie détaillée, elle consiste à court-circuiter totalement les intermédiaires de distribution traditionnels.
Donc, supprimer les grossistes.
Exactement. L'entrepreneur, il va chercher son lait directement dans les coopératives laitières locales. Ça permet de réduire les coûts des matières premières de 15 à 20% d'un coup.
Ah ouais, c'est énorme sur le volume.
Et pour les fruits, il ne s'agit pas de se faire livrer gentiment. Il faut aller négocier directement sur les marchés de gros, à l'aube, genre à 5h du matin.
Ah, le fameux réveil à 5 heures de l'intro.
C'est ça. En clair, l'entrepreneur échange son propre sommeil et son effort physique contre de la marge brute. C'est cette ingénierie logistique invisible qui permet de servir un produit d'excellence tout en maintenant des ratios financiers exceptionnels.
Ok, je comprends mieux. L'artisanat n'est donc pas seulement dans la cuisine, il est aussi dans la logistique de l'aube.
Il faut mouiller la chemise.
Ouais. Alors, puisqu'on a établi que cet effort physique protège la marge, intéressons-nous à la façon de financer tout ça. C'est bien beau de protéger des marges sur un tableur Excel, mais dans la vraie vie, on parle de combien d'argent?
L'étude propose deux scénarios très clairs.
Oui, elle met deux options financières sur la table. Le premier, c'est le modèle du chariot mobile. Et j'avoue que ce scénario me fascine parce qu'il incarne une sorte de guérilla entrepreneuriale, une fluidité extrême.
C'est le modèle d'entrée idéal, en fait, car il repose sur un concept fondamental, la minimisation du risque par la réduction drastique des coûts fixes initiaux.
Et les chiffres le démontrent. L'investissement global estimé pour ce chariot, il oscille seulement entre 30 000 et 45 000 dirhams.
C'est très accessible.
La clé de voûte de ce budget, c'est l'achat d'une machine semi-professionnelle. Souvent une marque italienne reconditionnée, d'occasion, qui va coûter entre 8 000 et 15 000 dirhams. Donc une fraction du prix du neuf.
Bien sûr.
Et la projection financière est redoutable. En vendant à peine 50 portions par jour, à 18 dirhams l'unité, l'entrepreneur génère environ 23 400 dirhams de chiffre d'affaires par mois.
Et le bénéfice?
Et c'est là le truc. Pour un bénéfice net de près de 15 900 dirhams en haute saison, le retour sur investissement total se fait en 3 ou 4 mois seulement. C'est un cycle d'une rapidité fulgurante.
C'est impressionnant. Et cette rapidité s'explique principalement par l'absence d'un loyer lourd. T'as pas de mur à payer. Mais le document n'ignore pas ceux qui ont une ambition de croissance plus grande. Et il propose le second scénario.
La boutique fixe.
Voilà. Évidemment, la machinerie financière est plus lourde. Là, l'investissement dépasse facilement les 80 000 à 120 000 dirhams.
Forcément.
Parce qu'il faut inclure un pas de porte, un loyer mensuel, une machine de production beaucoup plus imposante, genre 7 à 10 litres, et bien sûr, payer un employé.
C'est plus le même délire.
Non. Mais l'effet de volume compense cette lourdeur. Avec une moyenne estimée à 100 portions par jour, à 22 dirhams cette fois, le chiffre d'affaires grimpe à 57 200 dirhams mensuels.
Waouh !
Ce qui donne un bénéfice net autour de 33 000 à 35 000 dirhams par mois en haute saison. C'est un retour sur investissement qui peut dépasser les 170 à 220 % dès la première année.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde la structure des revenus de cette boutique, c'est pas qu'une question de volume ou d'avoir plus de clients, c'est une manipulation brillante de la psychologie des prix.
Ah oui, l'effet d'ancrage.
Exactement. L'étude met en lumière cette technique, couplée à ce qu'on appelle l'effet leurre. Imaginez le client devant le tableau des prix dans la boutique. La boule simple est affichée à 15 dirhams. Le cornet double est à 25 dirhams. Et juste à côté, il y a un immense pot familial affiché à 55 dirhams.
Le fameux pot à 55.
Ouais. Et en fait, le cerveau humain déteste les extrêmes. Il regarde le pot à 55 dirhams, il le trouve trop cher ou juste trop grand pour le moment. Ensuite, il regarde la boule simple à 15 dirhams et il la trouve un peu insuffisante, genre il a envie de se faire plaisir.
Du coup, il vise le milieu.
C'est ça. Il rationalise immédiatement le cornet double à 25 dirhams comme étant l'affaire intelligente. Le format à 25 dirhams devient automatiquement la norme mentale. Le client a l'impression d'avoir fait un choix malin, alors qu'en réalité, l'entrepreneur vient de maximiser son panier moyen sans aucune pression commerciale. C'est fait tout seul.
C'est une application d'école des biais cognitifs. L'architecture même du menu fait le travail de vente à la place de l'employé derrière le comptoir. Le choix intermédiaire rassure constamment notre cerveau rationnel.
Bon, les ratios financiers, les marges, la psychologie des prix, tout ça, c'est limpide sur le papier.
Oui.
Mais j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui a le budget prêt sur son compte en banque. Comment on passe du statut de rêveur, avec un tableur Excel bien fait, au statut d'entrepreneur qui crée des files d'attente sur le trottoir ?
L'exécution, c'est le plus dur.
Ouais. En examinant le plan d'action de 8 semaines suggéré par la source, ma première intuition, c'était que le gros du travail, ce serait de perfectionner la recette jour et nuit, tu vois. Mais en lisant entre les lignes, j'ai l'impression que la recette n'est presque qu'un détail face au véritable goulot d'étranglement de ce calendrier.
Ton intuition est la bonne, car la réalité administrative, c'est souvent le premier mur sur lequel se fracassent tous les projets gastronomiques. Les 4 premières semaines de ce plan de lancement, elles constituent le travail de l'ombre, l'invisible.
Les joies de la paperasse.
Ah bah oui, le statut d'auto-entrepreneur, le registre de commerce. Et le point de friction majeur, ce n'est pas le choix des arômes, c'est l'obtention de l'autorisation de l'ONSA.
L'autorité de sécurité sanitaire, c'est ça ?
C'est ça. Au Maroc, sans ce sésame, qui exige une rigueur implacable sur les plans d'hygiène, le projet est littéralement mort-né. Tu ne peux pas ouvrir.
Faut pas rigoler avec l'hygiène.
Exactement. Et en parallèle de ce parcours du combattant administratif, il y a bien sûr le développement du produit. Mais là encore, la méthode suggérée par l'étude est assez contre-intuitive.
Ouais, ils disent quoi, là ?
L'étude recommande de développer une quinzaine de parfums au début, de les faire tester à l'aveugle par un panel de 20 à 30 personnes.
D'accord.
Mais au final, de n'en garder que 6 ou 8 pour l'ouverture.
Seulement 6 ou 8 ? Cette réduction drastique de la carte, c'est fascinant. Au lieu de proposer un mur géant de 40 parfums avec des couleurs fluo comme les glaciers industriels, on restreint le choix au maximum.
C'est beaucoup plus malin.
C'est ce fameux paradoxe du choix, non ? C'est un peu le syndrome de Netflix. On passe 30 minutes à scroller le catalogue infini pour finalement regarder le même épisode de Friends que d'habitude.
C'est tout à fait ça. Trop de choix paralysent le consommateur.
Ouais, ça allonge le temps de décision au comptoir, ça crée des bouchons dans la boutique et au final, ça dilue l'identité de la marque. Moins de parfums, ça crie direct artisanat et fraîcheur du jour.
Le parallèle avec l'économie de l'attention est très juste. Une carte restreinte indique inconsciemment que tout a été produit le matin même. C'est une promesse implicite de qualité.
Ok, donc ça c'était les 4 premières semaines.
Voilà. Et c'est lors des semaines 5 à 8 que cette promesse passe enfin dans la sphère publique. C'est la phase d'aménagement visible et du soft opening.
L'ouverture en douceur. Et c'est là qu'on active l'arme secrète, le marketing digital.
Et sur ce point, l'étude ne se contente pas de dire « ouvrez une page sur les réseaux sociaux et faites une belle photo hein. ». Elle dissèque vraiment l'algorithme et la psychologie de chaque plateforme.
Ouais, elle explique que Instagram est utilisé comme une sorte de vitrine de luxe. On y met la belle photo bien léchée du produit fini, l'esthétique pure, pour faire envie.
Alors que TikTok ?
Voilà. À l'inverse, TikTok, qui capte massivement les 16-30 ans au Maroc, est exploité pour son algorithme qui récompense la vulnérabilité et l'authenticité brute. On ne poste pas des photos parfaites sur TikTok.
Ça marche pas, ça.
Non. On poste la vidéo un peu tremblante de la réaction d'un client qui goûte une glace à l'amelou ou aux zaatar et miel pour la toute première fois. On filme les coulisses, les erreurs, l'effervescence de la préparation.
L'envers du décor.
C'est ça. Et puis, il y a ce coup de génie marketing absolu suggéré pour le jour du lancement officiel. Offrir 100 mini-portions gratuitement.
Ah, ça c'est redoutable.
En termes de coût réel de matières premières, on parle de 500 dirhams maximum. Mais l'impact viral, 100 personnes avec leur téléphone à la main qui créent une file d'attente énorme et artificielle dans la rue le jour de l'ouverture. C'est de l'ingénierie sociale pure, quoi. Et l'offre d'après, c'est la deuxième boule à 5 dirhams pour garder les gens.
Si on relie ça au contexte global, on comprend vite que ce n'est pas de la simple publicité. Dans une époque de méfiance généralisée envers l'industrie agroalimentaire, la transparence est devenue l'arme marketing la plus létale.
Vraiment ?
Le document insiste d'ailleurs lourdement sur le fait de rendre l'espace de production visible.
Ouais, les cuisines ouvertes.
Exactement. Montrer la turbine en train de tourner. Montrer le lait qui coule sous les yeux du client. C'est ce qu'on appelle le marketing de la preuve. On vend une vérité opérationnelle avant même de vendre une saveur.
C'est une mécanique brillante, il n'y a pas à dire, hein. L'illusion d'une petite boutique mignonne, rustique, mais propulsée par un moteur marketing ultra moderne.
C'est le duo gagnant.
Mais bon, jusqu'ici, tout semble parfaitement tuégueux. Un peu trop, peut-être, tu vois. Que se passe-t-il quand le rideau se lève et que la réalité brutale des affaires frappe à la porte? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille.
Ah, ça non.
Et l'étude consacre justement une part importante aux sueurs froides qui attendent inévitablement notre artisan.
La première menace existentielle évoquée par le rapport, elle est d'ordre climatique. C'est le drame de la saisonnalité.
Et l'hiver, quoi.
Voilà, les données sont impitoyables là-dessus. Entre novembre et février, le volume des ventes peut s'effondrer de 50 à 60%. Pour un artisan qui n'a pas anticipé sa trésorerie, c'est l'asphyxie financière et la fermeture pure et simple.
La question c'est, comment ne pas fermer boutique en hiver? L'approche naïve, ça serait de se dire, on va juste rajouter des crêpes et des gaufres au menu pour réchauffer les gens.
C'est ce que font beaucoup d'ailleurs.
Oui. Mais l'étude propose un pivot beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas seulement de changer le produit, il s'agit de s'adapter au format de consommation hivernale. La stratégie, c'est de pousser agressivement la vente de gros pots d'un demi-litre, de 500 millilitres, pour la consommation à emporter.
Ah oui, très intelligent.
On sort sur l'effet soirée canapé film ou plaid et Netflix. Les gens ne s'arrêtent pas de manger de la glace en hiver, en fait. Ils arrêtent juste de la manger debout en tremblant dans la rue. C'est une nuance fondamentale.
Le format s'adapte au comportement. Et l'autre immense cauchemar identifié par le texte, c'est la vulnérabilité opérationnelle. Et tout particulièrement, la chaîne du froid.
Oula, oui.
Imagine un peu le scénario. Une simple coupure d'électricité imprévue, de quelques heures, en plein mois d'août.
La catastrophe.
C'est l'intégralité du stock, le capital entier de matières premières, qui doit être jeté à la poubelle. C'est potentiellement la faillite sur un bête incident technique.
D'où cette ligne de dépenses dans l'étude qui ressemble presque à un détail dans le budget global, mais qui est vital en fait, l'investissement crucial dans un onduleur ou un petit groupe électrogène de secours.
Indispensable.
Ça coûte environ 210 dirhams. C'est pas un accessoire de luxe, c'est carrément un gilet de sauvetage. Et on retrouve cette même tension vitale autour des normes sanitaires.
L'ONSA ne rigole pas.
Ah non. Le port de la charlotte sur la tête, l'utilisation des gants, la désinfection constante des plans de travail. Le texte rappelle que les inspecteurs sanitaires ne donnent pas de petits avertissements amicaux en disant « faites attention la prochaine fois ».
Pas du tout.
La sanction en cas de rupture de la chaîne d'hygiène, c'est très souvent la fermeture administrative immédiate. Du coup,
La rigueur, bah, c'est pas une option.
Cela soulève une question importante sur la pérennité du modèle quand même. Supposons que l'entrepreneur maîtrise tout cela à la perfection et connaisse un succès foudroyant.
Ok.
Le risque suivant, c'est les copieurs. Face au risque concurrentiel, dès qu'une marge de 65% est prouvée publiquement, t'as la concurrence qui débarque dans la rue d'en face.
C'est sûr.
L'étude met en garde. Le produit seul ne constitue pas un rempart suffisant. Une bonne recette de glace au safran, bah, ça se copie assez facilement au final. La seule véritable douve protectrice autour du château de l'entrepreneur, c'est la force de la communauté tissée en ligne.
La fidélité des clients.
Et la capacité à innover sans cesse. Sortir des éditions limitées, par exemple, qui créent l'événement et maintiennent la marque au centre de la conversation sur les réseaux.
Ce que je trouve vraiment remarquable dans toute cette analyse, c'est que ces leçons de gestion des risques, elles dépassent largement le cadre de la crème glacée.
C'est universel, oui.
On touche ici à des principes de création d'entreprise qu'on peut appliquer à n'importe quel projet. L'idée de ne pas surinvestir au départ, de commencer par un modeste chariot mobile pour tester le marché avant d'engager les frais massifs d'une boutique en dur, bah c'est la définition même de la méthodologie Lean Startup.
Exactement.
On teste son concept, on vérifie que les clients sont prêts à payer avec un minimum de moyens, et une fois la demande validée sur le terrain, paf, on accélère. On ne construit pas le grand château avant d'avoir vérifié qu'il y a un roi pour l'habiter.
L'application de cette philosophie de la tech californienne à un chariot de rue au Maroc, c'est une démonstration parfaite de la globalisation des méthodes de gestion.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on prend un peu de hauteur sur notre analyse du jour ? Ce que monprojet.ma nous a révélé avec cette étude de 2026, c'est qu'un marché dominé par des jeunes, soutenu par un climat très chaud et riche d'ingrédients locaux exceptionnels, c'est une véritable mine d'or.
Si on a la bonne carte au trésor.
Voilà. Le terroir marocain est une mine d'or, mais seulement quand il est packagé avec les codes de la consommation moderne. Cette mine d'or ne s'ouvre pas avec de simples bonnes intentions.
C'est du travail, beaucoup de travail.
Elle exige de maîtriser une logistique matinale épuisante, de comprendre la psychologie des prix, de gérer sa chaîne du froid comme un militaire et de manier les algorithmes des réseaux avec une transparence totale.
Et pour clore cette réflexion, j'aimerais proposer à ceux qui nous écoutent une perspective, une idée qui n'est pas mentionnée explicitement dans l'article, mais qui en découle directement.
Vas-y, dis-nous tout.
On vit dans une époque où les jeunes générations sont captivées par le format court, la consommation rapide, le snacking, l'esthétique de l'instant, quoi. On s'inquiète très souvent, et à juste titre, de la disparition des recettes traditionnelles complexes.
C'est vrai qu'on perd ce savoir-faire.
Mais si on observe bien ce modèle, transformer cette tradition séculaire, comme une recette à la chebakia ou à l'amelou, en un produit hyper moderne, instagrammable et éphémère comme une boule de glace artisanale.
Ouais.
Et le plus efficace, en fait. Le seul moyen de transmettre notre patrimoine culinaire aux futures générations. Utiliser l'économie de l'attention d'aujourd'hui pour sauver les saveurs d'hier.
C'est une perspective magnifique pour conclure, je trouve. Protéger l'héritage d'hier en utilisant les codes d'aujourd'hui. Un grand merci pour tes éclairages pointus qui nous poussent vraiment à repenser les opportunités qui nous entourent.
Avec grand plaisir.
La prochaine fois qu'on passera devant un simple chariot de glace en pleine rue, il sera bien difficile de ne pas y voir la mécanique fascinante d'un empire financier miniature en pleine action. Bonne réflexion à tous, merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.